La Bibliothèque Orbitale, saison 3, épisode 10. Au sommaire, un épisode 100% tourista, parce que voir disparaître à 15 jours d'intervalle Ian Banks et Richard Matheson, vous je sais pas, mais moi ça me fait vraiment, vraiment chier. Et pendant ce temps, en 1996, Maria McKee enregistrait Life is Sweet, son troisième album solo, qui est, n'en doutons pas un seul instant, le meilleur album de tous les temps. Dimanche 9 juin 2013, j'avais à peine terminé l'enregistrement du précédent épisode de ce podcast navrant, en grande partie consacré à Jack Vance, qu'on apprenait la disparition d'un autre très grand de la science-fiction anglo-saxonne, Ian Banks. Alors oui, Banks lui-même avait annoncé en début d'année être atteint d'un cancer incurable, mais voir disparaître à même pas 60 ans l'un des écrivains majeurs de sa génération est désolant au plus haut point. Alors bon, on se console comme on peut en se replongeant dans les livres du monsieur. Et de ce point de vue au moins, on se réjouirait un peu de constater que Banks reste très présent en librairie. Non seulement le livre de poche vient de rééditer deux de ses bouquins, L'algébriste et l'essence de l'art, mais les éditions de L'œil d'or ont eu la folle idée de traduire Fearsome Engine, roman datant de 1994 et resté inédit en France jusqu'à ce jour. Roman qui vient donc de paraître il y a quelques semaines sous le titre d'Effroyable Engin. Commençons par celui-ci. Effroyable Engin est l'un des livres les plus singuliers, étranges et énigmatiques signés Ian Banks, avec un M au milieu, mais on va en faire l'économie le temps de cette chronique. L'histoire se déroule sur Terre, dans un futur indéterminé, mais vraisemblablement très lointain, longtemps après que la majeure partie de l'humanité s'est égayée aux quatre coins de l'univers. Et alors que ceux qui sont restés voient apparaître un phénomène cosmique qui menace de plonger le monde dans une nouvelle ère glaciaire, la dévoration. L'histoire nous est racontée du point de vue de quatre personnages dont la bizarrerie est le parfait reflet de la société dans laquelle ils vivent. Une jeune femme amnésique, une scientifique qui cherche à comprendre pourquoi les autorités se soucient si peu de la menace qui plane sur l'humanité tout entière, un militaire qui ne cesse de se faire assassiner, et un gamin lancé à la recherche d'une fourmi qui parle. Effroyable Engin est un roman qui baigne dans une ambiance d'étrangeté permanente. Le monde que nous décrit Ian Banks ne ressemble que de très loin au nôtre. On reconnaît quelques noms, certaines constructions sociales peuvent nous sembler familières au premier abord, mais tout est constamment décalé, déformé, et l'auteur reste toujours suffisamment vague dans ses descriptions pour que l'on ne parvienne jamais tout à fait à se familiariser avec l'univers qu'il met en scène. Et ce ne sont pas les personnages que l'on suit qui vont nous être d'un grand secours. Eux aussi semblent perdus, emportés par cette histoire qui les dépasse, ne sachant que rarement ce qu'on attend d'eux. Ils sont ballottés par des événements sur lesquels ils n'ont que rarement prise, passent sans arrêt et parfois même sans transition du monde réel à des univers virtuels tout aussi dangereux. Sur la forme, par son côté déstabilisant et en apparence décousu, Effroyable Engin n'est pas sans rappeler Entrefer. Ian Banks ne fait rien pour mettre le lecteur dans une position confortable. Au contraire, il ne cesse d'exiger de lui une attention de tous les instants, sous peine de se perdre dans le flot de ce récit. Il va même jusqu'à retranscrire les aventures de Bascule, l'un de ses personnages, en phonétique, ce qui rend la lecture de ces passages particulièrement laborieuse, encore plus lorsque les dialogues reproduisent les défauts de prononciation de certains des protagonistes. Au passage, on saluera le travail de la traductrice Anne-Sylvie Omassel, qui est absolument impeccable de bout en bout. À force d'intransigeance, Effroyable Engin peut finir par sembler insaisissable, ce qui est en partie vrai. Mais c'est également ce qui le rend aussi fascinant et fait de sa lecture une expérience assez unique. Et puis, au détour d'un chapitre, on y lit des scènes saisissantes, vraiment de toute beauté, comme ces quelques pages qui nous font vivre en accéléré la fin du monde, ou ces visions de décors sidérants par leur démesure et leur splendeur. Et il y a comme toujours l'humour de l'auteur, cette absurdité goguenarde qui est sa marque de fabrique et qui fait souvent mouche. Si bien que, au terme de la lecture de ce roman, même si le chemin fut parfois chaotique et éreintant, c'est un sentiment de satisfaction qui domine, celui d'avoir connu une expérience de lecture qui ne ressemble à aucune autre. Au final, on a le droit de ne pas avoir tout compris à Effroyable Engin, on a même le droit de ne pas l'aimer, mais on n'a pas le droit de ne pas le lire. De Ian Banks, l'algébriste se situe à peu près aux antipodes d'Effroyable Engin. Là où ce dernier s'affiche comme une œuvre ambitieuse et complexe, l'algébriste au contraire est une lecture de pure détente, un pavé qui s'avale comme un apéro chips et Côtes-du-Rhône bien frais. L'action se déroule dans un lointain système solaire, isolé depuis la destruction du trou de ver qui le relie au reste de la galaxie. C'est embêtant, surtout lorsqu'une armada spatiale se prépare à vous attaquer et que les renforts risquent d'arriver avec quelques siècles de retard. Pour résoudre ce problème, un humain, Facintac, est envoyé auprès des habitants, des créatures qui vivent à l'intérieur de géantes gazeuses et dont l'espérance de vie est de quelques milliards d'années, dans l'espoir de les convaincre de lui donner accès à un autre réseau de trous de ver dont eux seuls ont la clé. Et vu la personnalité imprévisible des habitants, c'est pas gagné. Plus encore que dans les romans appartenant au cycle de la culture, Ian Banks s'amuse ici avec les stéréotypes du space opéra. Non pas pour les détourner, mais au contraire pour les exacerber. C'est ainsi que non seulement on a droit à des pirates de l'espace, mais qu'en plus ils sont très très méchants, tellement méchants que leur chef s'appelle Luciferus, et qu'il s'avère être d'une cruauté sans limite envers ses ennemis, quand ce n'est pas sur ses proches qu'il se défoule. C'est comme ça aussi qu'on se retrouve avec des extraterrestres presque aussi vieux que l'univers lui-même, mais qui peuvent se montrer plus facétieux que des gamins de 6 ans. Du coup, on s'amuse beaucoup à la lecture de l'algébriste, notamment quand on voit comment les extraterrestres en question traitent leur progéniture, laquelle ne survit d'ailleurs que très rarement aux mauvais traitements qu'on lui inflige. Les personnages comme les situations sont démesurés jusqu'à l'absurde, et le résultat est franchement réjouissant. L'intrigue du roman, quant à elle, ne sert finalement que de prétexte à Ian Banks pour s'amuser avec tous ses poncifs, ce qui ne va pas sans causer quelques froncements de sourcils lors de sa résolution. De même, même si l'ensemble se lit avec plaisir, il faut bien reconnaître que le roman souffre de quelques longueurs et aurait sans doute gagné à être élagué d'une bonne centaine de pages. Ça n'empêche pas l'algébriste d'être un bon roman, distrayant au possible, bref, la lecture estivale idéale. On ne peut pas parler de Ian Banks sans parler de la culture. Ça tombe bien, le livre de poche, encore lui, a réédité en début d'année L'essence de l'art, précédemment paru au Bélial. Dans sa carrière, Ian Banks n'a écrit que très peu de nouvelles, et on les retrouve toutes au sommaire de ce recueil. Certains textes, comme La route des crânes ou Curieuse jointure, sont d'ailleurs davantage d'anecdotiques et rigolotes vignettes que de véritables nouvelles. Mais on trouve aussi de très bons récits dans L'essence de l'art, en particulier ceux qui se rattachent au cycle de la culture. Passons rapidement sur le moins intéressant des trois, Un cadeau de la culture, l'histoire d'un ex-citoyen de la culture qui a coupé les ponts avec son ancienne vie et qui va brutalement se prendre son passé en pleine tronche. On peut lui préférer Descente, sorte de tête-à-tête tragique entre un naufragé spatial, perdu sur un monde hostile, et le scaphandre qui lui permet de survivre et qui lui fait surtout la conversation. Une fois évacué le côté incongru de la situation, on aboutit à un texte dramatique dans lequel Ian Banks nous place dans la peau de son personnage et nous fait partager son calvaire. Reste enfin le gros morceau de ce recueil, la nouvelle éponyme, presque un court roman plutôt qu'une longue nouvelle. Ian Banks y raconte la visite d'un vaisseau de la culture, sobrement baptisé Arbitraire, sur notre Terre dans les années 70. C'est aussi et surtout l'histoire de Dervley Linter, qui choisit de renoncer à la culture pour vivre sur ce monde archaïque et violent. Et pour l'auteur, c'est l'occasion de dresser le portrait croisé de ces deux civilisations que tout oppose. Au-delà de la simple dénonciation des horreurs et des aberrations de notre société, Banks y met aussi en lumière une vitalité et une passion qui, à contrario, manquent cruellement à la culture. Et mine de rien, par l'intelligence de son propos et la qualité de sa narration, L'essence de l'art est à classer parmi les toutes meilleures œuvres de son auteur. Listening anymore. Tied my tongue off with a wire. Now my head is full of liars. I'm not listening. I'm not listening. I'm not listening. I'm not listening. Cause I was that girl who tripped her downstairs. I kicked away her books. She eats her lunch alone. She suffers, leers, jeers, and stares. She knows she'll win you over once and over twice.
place. And maybe not, but that's alright. If I'm a phoenix, if I'm a demon or a sage or a fake, or if I'm gutless, leave me alone and let me be this.
Jours à peine après la disparition de Yann Banks, rebelote, cette fois c'est Richard Matheson qui nous quittait, à 87 ans. Matheson, évidemment, c'était Je suis une légende, L'homme qui rétrécit, Le jeune homme, la mort et le temps, Journal d'un monstre, ou encore le script de Duel, le premier film de Steven Spielberg. Il a écrit dans à peu près tous les genres, science-fiction, fantastique, polar, western, et à peu près toujours avec le même bonheur. En début d'année, la collection Nouveau Millénaire chez J'ai Lu accueillait l'un de ses tout derniers romans, D'autres Royaumes, paru en 2011 aux États-Unis, roman que l'on pourrait qualifier de fantasy romantique. L'histoire est celle d'Alex White, un jeune homme qui, des années plus tard, deviendra un célèbre auteur de fantastique gothique sous le pseudonyme d'Arthur Black. Mais bien avant cela, en 1918, Alex White va connaître une expérience singulière en Angleterre, dans le petit village de Gatford. À 18 ans seulement, blessé dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, c'est dans ce coin perdu de l'Angleterre qu'Alex va s'installer pour oublier les horreurs du monde et couper les ponts avec sa famille et son père en particulier, un officier de la marine américaine pour qui il éprouve une haine viscérale. Gatford est un village sans histoire, mais il n'en va pas de même des forêts qui l'entourent, peuplées de créatures magiques si l'on en croit les légendes locales. Et, comme il va très vite le découvrir, toutes ces légendes sont vraies. D'autres royaumes nous racontent donc comment Alex White va quitter un monde pour en découvrir un autre, peuplé d'elfes, de fées et de quelques autres créatures nettement moins fréquentables. Comment aussi il va découvrir l'amour entre les bras et les cuisses d'une plantureuse sorcière, puis ceux d'une délicate fée. Le roman affiche souvent des allures de conte libidinal pour adolescents en plein tsunami hormonal, lequel ado devrait trouver dans les nombreuses et explicites descriptions des prouesses sexuelles de notre héros, de quoi soulager temporairement ses tumescences chroniques. Pour faire dans la litote, on va dire que D'autres royaumes ne figurent pas parmi les plus belles œuvres de Richard Matheson. On tâchera de lui pardonner une certaine niaiserie sentimentale, eu égard au jeune âge de son narrateur, et on essaiera d'y voir avant tout une tendre déclaration d'amour à son épouse, Ruth Ann, seule et unique princesse de sa vie, comme il l'écrit en préambule à ce roman, à ne lire qu'après tous les autres. Comme ce serait dommage de se quitter sur l'évocation d'un bouquin aussi peu représentatif du talent de Richard Matheson, n'en restons-en pas là. Je ne reviendrai pas sur ces classiques déjà évoqués précédemment et que vous êtes assez grand pour aller lire ou relire sans que je vous le dise, et intéressons-nous plutôt à l'une de ses œuvres moins connues et pourtant méritantes. Par exemple, le Journal des années de poudre, roman paru en France en 2003 dans la collection Lune d'encre des éditions de Noël, et qui n'a semble-t-il pas trouvé son public, ce qui est tout à fait navrant vu que, merde quand même, il est vachement bien ce bouquin. On peut d'ailleurs s'étonner que ce soit cette collection qui ait accueilli ce roman, puisque Journal des années de poudre n'est pas un roman de science-fiction, de fantastique ou de fantasy, mais bel et bien un pur western. C'est l'histoire d'une légende du Far West, Clay Alser, soldat unioniste à 18 ans, gibier de potence à 20, marshal à 25 et cadavre à 30. Je ne dévoile rien, le roman s'ouvre sur la mort de son héros, connement abattu par un gamin de 16 ans venu se mesurer à la légende que les journaux ont fait de lui. Journal des années de poudre reprend le contenu du carnet intime que Clay Alser a tenu tout au long de sa vie. À travers sa vie et sa mort, Richard Matheson revisite tout un pan de l'histoire de son pays, mais aussi un genre qui fut longtemps le plus populaire, sur papier comme sur grand écran. Un genre que l'auteur va s'employer à démythifier. Car derrière l'image du légendaire pistolero qu'il met en scène, on découvre un homme brisé, tragiquement seul, hanté par les fantômes de son passé. Matheson n'est certes pas le premier à aborder le genre de la sorte, mais il parvient à donner à son récit une sincérité et une humanité qui en font une réussite incontestable, démontrant au passage que, quel que soit le genre qu'il aborde, Richard Matheson est et restera à jamais un immense écrivain. One day her father came to her door, looking just like he did when she was a little girl. Wasn't really him, but he loved her like she wished he'd done before. Then her brother rose from the dead, dressed up just like a gentleman caller. She didn't know him.